Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
C'est alors qu'il faut
Bonjour tout le monde, ici Claude Saint-Jacques pour l'émission À nous le futur. J'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, il y a quelqu'un ici qui est en entrevue qui va nous aider à mieux se sentir avec ces informations. En effet, je suis avec M. René Maréchal qui est kinésiologue et qui enseigne ici à l'Université de Sherbrooke. Qui...
Je suis chargé de cours à la Faculté des sciences de l'activité physique.
Bien, félicitations. Et comment je vous connais, c'est en lisant le livre dans Internet seulement, le livre de la réduction de la maladie, où vous avez écrit un chapitre qui s'appelle « L'inactivité physique et sédentarité, deux causes distinctes de maladie ». Il y a même l'activité physique aussi qui est distincte.
Tout à fait.
Bon, alors c'est ça qui m'a intéressé. Je pense que ça m'a surpris que des gens qui sont actifs physiquement peuvent être sédentaires, surtout dans l'industrie du savoir.
Ben, tout à fait. C'est le propre de notre...
dans notre société du savoir, en effet, où là, on n'est plus dans le travail manuel, on est dans le travail plus cérébral. Et ce travail-là, malheureusement, se passe souvent assis. Donc, mm-hmm. on est assis à un bureau, on travaille, mm-hmm. on se questionne, on fait des journées longues. Et donc, on cumule beaucoup de comportements sédentaires dans une journée.
Mm-hmm. Justement, disons, la sédentarité, qu'est-ce que c'est exactement?
Bon, on va commencer par définir qu'est-ce qu'un comportement sédentaire pour okay. être capable de comprendre qu'est-ce que la sédentarité. Donc, d'accord. le comportement sédentaire, c'est toute action qui est faite qui génère une faible dépense énergétique en position assise, allongée ou inclinée. Mais on va considérer, pour nous simplifier le travail aujourd'hui, là, position assise. Donc, dans la voiture, au cinéma, au restaurant, un bon souper entre amis, la télé le soir, la chaise de bureau, vous commencez à me voir où est-ce qu'on s'en va, jouer à des jeux de société, faire de la peinture, toutes ces activités-là qui sont des petites activités qui ne font pas nous époumoner, comme on dit, ben, qui génèrent une faible dépense énergétique, qui sont des comportements sédentaires. Et donc là, après ça, c'est de la sédentarité, ben, c'est le temps que l'on passe dans une journée à faire cela. Donc, ça varie d'un individu à l'autre. Là, ça peut être aussi faible que quelques heures par jour jusqu'à plusieurs heures. Donc, il y en a qui peuvent aller jusqu'à 15-16 heures par jour de comportement sédentaire.
D'accord. Une question prévue, là. Comment vous en êtes venu à signer l'appel manifeste dans l'article écrit dans la presse sur la réduction de la maladie par Thomas Bastien? Je pense qu'il y avait au moins 20 personnes qui avaient signé, là.
Ouais.
Comment ça vous est arrivé d'être appelé à signer ça?
Ben en fait, je n'ai pas été appelé à signer. En fait, d'accord. c'est que les gens de l'Association pour la santé publique du Québec ont produit le livre blanc que vous avez fait référence au début, dont j'ai écrit un chapitre à l'intérieur. Et quand j'ai su qu'il faisait une lettre, ben pour moi, c'était évident qu'il fallait signer, être co-signataire de cette lettre-là, que la réduction de la maladie était plus importante que la guérison. Puis, je ne veux pas enlever le fait qu'il faut guérir les gens. Là. Quand les gens sont malades, il faut s'en occuper. Mais si on pouvait réduire la maladie avant son apparition, on enlèverait une pression probablement sur notre système de santé. Et donc, assurément, pour moi, comme kinésiologue qui travaille depuis maintenant plusieurs années, on va dire 25 ans comme kinésiologue, j'ai assurément vu toutes sortes de gens. Puis, pour moi, réduire la maladie, c'est ce qui est le plus important dans la population. Puis ça prend différentes formes. Là.
Oui, puis ce qui demande de la prévention et de la promotion de la santé.
Bien, tout à fait. Puis la santé, c'est pas juste physique. Hein. On pourrait penser à lui, le kinésiologue, il pense juste à la santé physique. Non, non, la santé, c'est multidimensionnel. Si on regarde la définition de l'OMS, on parle du bien-être de la santé. Donc, on parle du bien-être psychologique, social, physique. Tous ces éléments-là sont des éléments importants pour avoir une bonne santé. Donc, on n'est pas juste dans l'activité physique là, à tout prix.
J'ai vu que vous avez fait un travail avec les aînés. En quoi consistait-il? Et où s'adresser ici à Sherbrooke en tant qu'aîné pour faire des activités physiques selon l'axe que vous proposez?
Bon. Ben, moi, je travaille mon sujet de recherche parce que je suis en même temps qu'être chargé de cours, je suis aussi candidat au doctorat. Je fais un doctorat ou une thèse sur la sédentarité chez les personnes âgées. Donc, est-ce quel impact ça peut avoir sur la flexibilité métabolique? Là, vous allez me dire, c'est quoi ce bébite-là? et aussi, à quoi ressemblent nos personnes âgées sédentaires? Donc, c'est deux aspects de ma thèse. Si on regarde le premier aspect, à quoi ressemble une personne âgée sédentaire, bien, c'est une personne qui cumule beaucoup de temps dans une journée. Actuellement, mes données de recherche que j'ai cumulées sur l'enquête canadienne des mesures à la santé que j'ai prises, on parle d'une moyenne de 11,5 heures chez les personnes âgées de comportement sédentaire dans une journée. Donc, ça veut dire que sur un temps d'éveil possible, mettons qu'on dit que toutes les personnes dorment 6 heures par nuit, sur un temps d'éveil de 18 heures, plus d'11 heures et demie, c'est un gros pourcentage de ce temps de sédentarité-là. Mmh. Puis en même temps, bien, on est en train de finaliser nos analyses, mais on a découvert que si les gens cumulent beaucoup plus que la moyenne, on voit une augmentation du risque de mortalité, de comorbidité, donc d'avoir plusieurs problématiques. Mmh. Ça, c'est un premier aspect de ma thèse. Puis le deuxième, sur la flexibilité métabolique, bien, en fait, je vous dirais, comparer notre corps à un couteau suisse. Si on a juste une cuillère pour fonctionner, puis utiliser, tu sais, j'ai juste une cuillère pour rentrer de l'énergie puis la sortir, peut-être que je vais avoir un problème pour manger un steak ou manger une soupe. Ça va bien aller pour la soupe, mais le steak peut être problématique. Puis après ça, si j'ai des frites, peut-être je peux les prendre avec mes mains, mais peut-être ça me prend une fourchette pour manger ma salade. Fait que vous voyez que la flexibilité métabolique, c'est comment notre corps est à l'aise pour recevoir l'énergie, donc quand on mange, comment je la traite, puis comment je l'entrepose pour que lorsque j'en ai besoin, puis je fais de l'activité physique, elle soit vite utilisée puis est disponible. Fait que donc, c'est ça, la flexibilité, c'est d'être capable d'avoir un métabolisme flexible.
D'accord. Fait que ça n'a pas à voir avec le poids.
Non, du tout. D'accord. Il y a des gens qui peuvent être, on dit que les obèses métaboliquement sains. Donc, Okay. Oui, là, ils sont catégorisés comme obèses parce qu'ils ont des indices X, Y, Z, l'IMC, la circonférence de la taille, et ainsi de suite, mais que métaboliquement, ils fonctionnent très bien.
OK. Ça me rappelle un petit peu le livre de M. Després, La Révolution active. Je pense qu'il a fait de la recherche sur la flexibilité métabolique. Puis il parle de santé durable et de société durable, là. En tout cas, c'est pas grave.
Non, mais je connais M. Després.
OK. Puis il y a un sommet sur la santé bientôt où il va
participer? Non, le sommet a eu lieu justement à la suite du livre.
OK.
Donc, j'ai participé. M. Després aussi était présent comme panéliste. Moi, j'étais conférencier où je parlais aux gens justement de ce que vous avez mentionné, l'activité physique et la sédentarité. Est-ce que c'est un duo d'enfer?
OK. Ouais. J'ai marqué scandale ici, là, je vais arriver à ça tout à l'heure. Finalement, quelle est la différence entre l'activité physique, l'inactivité physique et la sédentarité?
Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la sédentarité, c'est le temps dans une journée à laquelle on passe assis. On va le réduire à ça, donc les comportements sédentaires. Et l'activité physique, c'est toutes les autres activités physiques que l'on fait dans une journée qui génèrent une dépense un petit, on va dire, modérée. Ça veut dire quoi, là? Bon, mais là, parce que l'activité physique, il pourrait en avoir d'autres niveaux, là, mais celle qui nous intéresse, c'est celle qui génère un petit essoufflement, là. Puis là, une petite chaleur, puis on sent que notre cœur bat un peu plus vite. Bien là, on est dans la zone minimale, donc la zone modérée, on peut aller plus haut. Et donc, ça, c'est l'activité physique. Puis pour être considéré actif, selon la littérature, là, on s'entend, là, moi, c'est vous. La littérature nous dit 150 minutes par semaine de ce type d'activité-là. Donc, d'accord. Si on fait 30 minutes par jour, 5 fois par semaine... Oui. Ben, on atteint notre objectif. Donc, inactif, ça veut dire quoi? Ben, c'est si je n'atteins pas le 150 minutes dans ma semaine ou je ne bouge pas du tout dans ma semaine.
D'accord. Est-ce que c'est vrai, j'ai lu ça dans un livre d'un physiothérapeute, qu'après une demi-heure assis, on devrait se lever, respirer de l'abdomen ou bien s'étirer un petit peu? Là? Après une demi-heure, est-ce que c'est exagéré?
Ah ben, pas du tout, en fait. Mon projet de recherche que je viens de compléter il y a à peine 2 semaines, le dernier participant, justement, je m'intéresse aux bris de sédentarité.
OK.
En fait, dans la littérature, on a même les premières études, justement, que hors micro qu'on jasait, les premières études qui ont démontré des effets de se lever simplement de sa chaise avaient une action instantanée sur le contrôle glycémique, donc le contrôle du sucre dans le sang. Puis là, on était comme, mais voyons, il n'y a personne à se juste lever. Puis on voit tout de suite une réaction du corps. En fait, ce qu'on a réalisé, c'est que c'est l'activité contractile. Le fait de faire des contractions musculaires. En me levant, je contracte des muscles, je bouge, j'amène une demande énergétique. Mon corps va me fournir quelque chose, puis je vais l'utiliser selon ce que j'ai besoin. Fait qu'on se rend compte que ça a des effets bénéfiques. Fait que, par contre, 30, 40, 15, on ne le sait pas encore précisément. Moi, dans mon projet de recherche, j'ai comparé le rien du tout, quelqu'un assis pendant 8 heures, à 60 minutes. Donc, aux heures, on les fait marcher, puis aux 30 minutes, je les fais marcher.
Okay.
Fait que j'ai hâte d'avoir de compiler mes statistiques. On pourra se reparler s'il faut. Mais assurément que 30 minutes, pour moi, c'est pas inatteignable. Je pense que c'est une cible qui pourrait être atteinte, mais je ne pourrais pas la confirmer encore.
D'accord. C'est une habitude à prendre, finalement. Il faut
tout
y
à fait.
Penser.
Ouais. Tout à fait. Briser. En fait, on pourrait briser le plus souvent possible.
Oui.
C'est pas obligé d'attendre 30 minutes puis de se lever. Là. Oui,
c'est vrai.
On peut trouver d'autres comportements qui nous obligeraient à se lever plus souvent. À l'inverse, travailler debout toute la journée serait pas une bonne idée non plus.
Oui.
Parce que là, notre corps est pas fait pour être tout le temps debout. Il a besoin de changement de position. Donc, d'où... Alors, l'abri de sédentarité.
Vous faites penser là, au docteur Michael Greger, dont j'ai lu quelques livres. Le dernier, c'est « How Not to Age », qui n'a pas été encore traduit. Il y avait 1200 pages, puis il a été forcé de faire 600. Là, il a fait des vidéos pour compenser.
Okay.
Et puis, il y a 13 000 références. Mais je sais qu'il y a une équipe qui travaille pour lui, là, ou avec lui. Là,
okay.
Parce que 13 000 références, un seul humain. Là. Ensuite, c'est ça, c'est qu'il a écrit son livre sur un tapis roulant, justement. Fait que je me disais, c'est peut-être exagéré, là, trop debout.
Non, parce que là, on n'est pas en position statique.
Ouais.
C'est la position statique qui est dommageable pour le corps. Si on reste debout, toujours dans la même position, notre corps, à un moment donné, va avoir des problèmes. Alors que si je marche, je suis en mobilité. Et il y a des études, en effet, qui ont démontré que le fait de marcher avait une meilleure activité métabolique parce qu'on la garde plus longtemps. En fait, on pourrait dire qu'on mime le comportement du chasseur. Le chasseur, il fallait qu'il marche des longues distances pour aller chercher la nourriture, puis après ça, la ramener au foyer. Bien, c'est une activité métabolique qui serait très aidante pour notre corps, selon la littérature présentement.
D'accord. Et est-ce que vous avez des suggestions différentes pour avec les âges différents, comme les aînés, la jeunesse, les gens du cégep, ou les travailleurs et les retraités? Est-ce que c'est à peu près... Je comprends que c'est un principe global, là.
Bien, en fait, il existe des recommandations en matière d'activité physique. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme je vous ai nommé tout à l'heure, que ce soit des adultes ou des personnes âgées, on parle de 150 minutes d'activité physique de type aérobie à intensité modérée à vigoureuse. Donc, comme j'ai dit tantôt, les activités qui génèrent une petite chaleur, une augmentation de la fréquence cardiaque puis de la respiration, ça, on devrait en faire 150, ça, c'est les recommandations. C'est pas parce que j'en fais 149 que je suis pas actif, puis c'est pas parce que j'en fais 100 que je suis pas actif. Je suis sur un continuum. Mm-hmm. À cela, chez les personnes âgées, on va parler, même chez les adultes, on va parler de musculation, donc qui est un autre type d'entraînement. Puis tout ça, c'est dans un but de remplacer ce qu'on faisait avant. Là. Nos ancêtres, comme je parlais de chasseurs-cueilleurs, il y avait beaucoup d'activités contractiles qui devaient être faites. Là, on ne les fait plus dans notre société. Donc, il faut les remplacer par quelque chose qui est de la musculation. Puis, c'est pas obligé d'être avec des gros haltères dans un gym. Là. Il y a bien des choses qui peuvent être faites à la maison. Il existe différents endroits qui vous en proposent. Puis, si on parle des jeunes, mais là, les recommandations sont encore plus élevées en termes de matière d'activité physique. Et chez les personnes âgées, on ajoute aussi deux éléments importants, la flexibilité et l'équilibre. Parce que ce sont les deux qualités physiques qui sont importantes chez les personnes âgées qui, malheureusement, à cause du vieillissement, peuvent des fois être altérées. Et donc, si on les travaille en combinaison avec la musculation et de la marche ou du jogging ou du vélo, de la natation, ou peu importe l'activité qui vous fait plaisir, bien, à ce moment-là, vous augmentez les chances d'être en meilleure forme physique.
D'accord. Vous me faites penser à un très léger petit problème que j'ai.
Allez-y.
Je fais du tai chi.
Oui.
Fait que ça m'aide à l'équilibre.
Tout à fait.
Mais je me suis inscrit pour un cours, Apprendre à tomber.
C'est un excellent cours.
Pas docteur, mais ceinture noire en judo.
Oui, si je ne me trompe pas ici à l'Université de Sherbrooke, c'est M. Benoît Séguin qui offre le cours.
Fait que là, je me dis, coudonc, est-ce que j'essaie de rester debout ou j'apprends à tomber?
En fait, je pense qu'on a besoin des deux.
OK.
Parce que la chute, contrairement à ce que la population souhaite, c'est... On ne voudrait pas de chute.
Ouais.
Ben, c'est inévitable.
Ouais.
Parce que les accidents, là, ça le dit, c'est un accident. On ne peut pas le prévoir. Une branche qui va nous arriver sur notre randonnée, un petit vertige qui nous pogne, un obstacle qu'on n'a pas vu arriver, on va perdre l'équilibre. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, c'est là que les cours de M. Benoît Séguin D'accord. sont intéressants, d'apprendre okay, comment je peux tomber pour prévenir les traumatismes sur mon corps.
D'accord. Et puis, dans le chapitre que vous avez écrit dans le livre de la réduction de la maladie, j'ai marqué ici « scandale ». C'est, on peut donc conclure que la population québécoise comme canadienne est majoritairement sédentaire au quotidien. Toute la population du Québec est sédentaire.
Ouais, ouais.
c'est un scandale.
Ben, scandale, c'est une réalité. Moi, je dirais plus ça qu'un scandale, c'est la réalité. Les gens sont souvent... Je suis toujours curieux puis étonné de voir que les gens, quand on les questionne, puis on leur dit, bon, dans votre journée, vous êtes sédentaire comment? Là? C'est quoi que vous faites? Puis là... moi, je suis toujours en train de bouger, puis je suis assis un petit peu le soir pour écouter la télé, puis le matin pour déjeuner, puis lire mon journal. Mais le restant de la journée, je suis tout le temps en train de bouger. OK. Et quand on leur met des accéléromètres, et c'est là qu'on découvre que, oups, j'ai un exemple dans mes participants, là, j'ai une personne qui me dit, quand on se parlait au téléphone, on estimait environ à 3 heures à 4 heures par jour qu'elle était assise seulement. Quand j'ai fait l'accélérométrie, on parlait de 8 à 9 heures par jour. C'est le double. Puis c'est directement lié à ce qu'on voit dans la littérature. Les gens sous-estiment leur sédentarité et surestiment leur niveau d'activité physique. Ça aussi, ça arrive. Fait que, scandale, je ne sais pas.
Oui.
Est-ce que c'est une cible à atteindre, peut-être? De se dire, OK, là, c'est le constat qu'on a présentement. Qu'est-ce qu'on fait avec maintenant?
D'accord. Les impacts socio-économiques de la sédentarité, c'est beaucoup. Hein. À l'échelle mondiale, c'est 14 milliards. 54.
En fait,
plus 14.
54, bien, plus 14, là, on parle d'environ 67, 68 milliards de dollars associés à l'inactivité physique.
OK.
Mais quand on regarde la sédentarité, comme je vous ai dit oui. tout à l'heure, il y a une étude qui a été faite actuellement à UK, excusez-moi, l'Angleterre, le Royaume-Uni,
oui,
c'est ça
okay.
le mot que je cherchais. Donc, au Royaume-Uni, ils ont estimé en perte de productivité et de coût de soins de santé à 1,2 milliard qui était pour une année. Fait que là, moi, j'ai fait une petite règle de 3. On va ramener ça à la population mondiale. On parle de plus de 140 milliards de coûts en perte de productivité, en soins de santé, en absentéisme.
Mm-hmm.
Ajoutez à ça l'inactivité, vous voyez rapidement que le coût mondial peut être très élevé, là, mm-hmm. juste mm-hmm. En termes de sédentarité et d'inactivité physique.
Oui. Je pense qu'on pourrait s'approcher du 1000 milliards. Je sais pas.
J'espère qu'on s'y approchera pas. Ouais. Moi, j'espère qu'on va aller de l'autre bord.
comme ici, par exemple, c'est 52 milliards dans le système de santé.
Ouais.
Comment suggérez-vous qu'on devrait mettre dans la prévention et la promotion? Si on avait tout le loisir de le faire, là, ça serait-tu comme 40 milliards puis juste 14 dans la guérison de la maladie, quelque chose comme ça?
En fait, si on pouvait du jour au lendemain changer la situation,
ouais.
on dit OK, là, il n'y a ouais. plus personne de malade,
ouais.
on part à neuf,
ouais.
puis là, on s'en va vers le futur, j'aimerais ça que la majorité soit mise en prévention parce okay. qu'on réduirait encore plus la maladie et donc on mettrait moins de pression sur le système de santé et donc on aurait une qualité de soins encore meilleure.
Mmh.
On
ne
se le cachera pas au Québec. On a quand même, là, si on compare à d'autres pays dans le monde, là, on a une belle qualité de soins quand on rentre dans le système.
Mmh.
Notre défi, c'est d'y rentrer. Là. Mais donc, oui, j'aimerais bien qu'on mette plus d'argent en prévention qu'en curation. Ceci dit, à cause du fait que ce n'est pas un effet instantané, on ne peut pas du jour au lendemain dire « je mets 40 milliards en prévention puis j'en mets 15 en soins ». Je ne vais pas avoir un effet direct. Ce n'est pas parce que j'ai mis 40 milliards en prévention que je vais diminuer les gens qui sont malades demain matin.
Ouais.
C'est à moyen long terme. Mais pour ça, il faut se donner un projet de société.
Mm-hmm.
Je parlais justement avec quelqu'un dernièrement, puis je me disais, on est peut-être dû pour notre évolution tranquille.
Mm-hmm.
Il y a eu un groupe de gens qui ont manifesté, qui ont décidé qu'il fallait que notre société québécoise change. On est peut-être rendu là, on critique le système d'éducation, on critique le système de santé, on critique l'administration publique.
L'agriculture aussi.
On critique tout.
Oui.
OK, mais peut-être qu'on est rendu à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut. Au lieu de dire ce qu'on veut pas,
oui.
qu'est-ce qu'on veut?
Je suis d'accord avec vous. Je vous encourage.
Je ne sais pas si c'est moi qui va tout changer, là. J'ai contribué en participant à cet ouvrage-là de réduire la maladie, en signant la lettre, en espérant que du côté gouvernemental, il y a un changement, là. Mais... OK.
Bien, il y a peut-être vers la fin de votre texte, là, dans la mise en place de stratégies pour contrer la sédentarité, il importera de tenir compte du fait que les comportements sédentaires et de loisirs, de transport, de travail et de la vie au quotidien sont le résultat de l'interaction entre ce qui définit la personne et son environnement. Fait que là, on parle peut-être d'environnement, projet de société.
Tout à fait. En fait, projet de société, mais tu sais, si je vais un peu plus loin pour vous imaginer ça, qu'est-ce qu'on fait comme population, comme société? Mm-hmm. Quand t'es gros, quand t'es malade, c'est de ta faute.
Mm-hmm. Ouais.
Quand t'es pas actif, c'est de ta faute.
Ouais.
T'as un cancer, c'est de ta faute. Mais malheureusement, il y a une interaction entre plusieurs choses. Il y a l'individu qui, lui, est responsable de ce qu'il fait. Vous avez tout à fait raison. Ceci étant dit, l'individu vit dans une maison ou un logement. Il vit dans un quartier, dans une ville, dans une province, un pays. Et donc, tout ça a des règles. Si je vis à Sherbrooke, dans le quartier de Fleurimont, où je n'ai pas de trottoir, puis que mon dépanneur est à 1 km ou à 2 km de chez moi, puis j'ai besoin d'une pinte de lait pour finir le souper, qu'est-ce que la personne va faire? Elle va embarquer dans son char, elle va aller chercher sa pinte de lait, puis elle va revenir. Mais si j'ai des trottoirs, puis si j'ai des dépanneurs plus proches de chez moi, peut-être que je vais faire, je vais y aller à pied, ça va me prendre 15 minutes, je vais revenir, puis ça va être fait. Donc, je vais encourager un comportement actif sans nécessairement être une activité physique de haute intensité. C'est une activité physique de basse intensité, mais je l'ai encouragée. Donc, on est tous responsables de l'un de l'autre. Mm-hmm. Si on pense que l'autre, il est responsable... Tu sais, la population actuelle, on est très individualiste. Mm-hmm. Mon petit bonheur, mes petites affaires, mais je peux-tu avoir une interaction avec l'autre? Mm-hmm. Puis c'est ça que je dis, en fait, dans cette phrase-là, c'est de dire, on est tous responsables du comportement sédentaire de chacun par un paquet d'actions. Si à midi, je vous dis, on va aller marcher après l'entrevue, mais là, je viens d'agir sur votre environnement. Je viens de vous faire une proposition. Vous l'acceptez, vous la refusez, mais je viens d'agir sur votre environnement. Bien, oui, voyez d'accord. À quel point ça peut être aussi petit que ça, oui, qu'une décision gouvernementale où là, on va mettre des sous en prévention.
Oui, exactement, c'est bon. Fait que là, votre dernier paragraphe, là, je le lis aussi. Là. Par conséquent, les instances décisionnelles ont donc aussi un rôle important à jouer dans l'implémentation d'une stratégie de promotion de la santé en s'alliant aux kinésiologues et en bonifiant la promotion et l'adoption d'une pratique d'activité physique et de nouveaux messages visant à réduire ou à briser la sédentarité au quotidien, la mise en place d'une stratégie pour contrer la sédentarité apporterait non seulement des impacts concrets sur la santé de la population, mais aussi sur l'économie à l'échelle nationale. Fait que là, j'amène une question.
Allez-y.
C'est que moi, j'ai été longtemps apolitique.
OK.
Influencé, disons, par Bachman Stoffler, qui a déjà travaillé à Sherbrooke. C'est lui qui a fait le dôme géodésique.
OK.
Fait que là, en tout cas, une autre influence, c'est Roméo Bouchard et son patron, son professeur André Larocque, qui croit qu'on devrait s'investir dans la politique. Mais lui, c'est non-partisan, surtout écrire la Constitution comme citoyen. OK. Et influencé par ça, je vais au conseil municipal depuis 7 ans, presque chaque mois. Fait que qu'est-ce que les citoyens et citoyennes qui veulent une bonne santé en réduisant la sédentarité devraient demander au conseil municipal puisque les instances décisionnelles doivent faire quelque chose?
Hey, là, vous me posez la question, vous.
Non, c'est pas grave.
Non, mais c'est une bonne question. Je vous dirais que... Ben, c'est sûr que je ne me suis pas penché à 100% à savoir quelles seraient toutes les stratégies pour contrer la sédentarité, parce que la réduire, c'est un fardeau qui est quand même difficile. Si demain matin, je vous dis, là, il faut changer vos habitudes de vie, puis vous devez réduire la sédentarité une heure ou deux par jour, vous allez me regarder, vous allez dire, ouais, mais je vais couper où, là? Puis là, après ça, je ne sais pas quoi. Fait que c'est pour ça qu'on parle de briser la sédentarité comme une alternative. Donc, les actions municipales, en fait, comme je l'ai dit tantôt, moi, je suis peut-être plus terre-à-terre dans le fait que, comme je vous disais, mettons l'action avec mon voisin, on va-tu prendre une marche, l'action avec mon milieu de travail, est-ce que mon employeur peut favoriser que je brise la sédentarité plus régulièrement dans mon travail, est-ce que j'ai des bureaux assis debout, est-ce que il y a des moments, à toutes les 30 minutes, j'ai une alarme, puis on se lève, puis on va aller chercher un verre d'eau, puis on revient. Je serais plus dans ces actions-là.
D'accord.
Mais en même temps, comme je vous dis, il faut qu'on monte éventuellement aux politiques puis aux infrastructures. Il va falloir envisager ça. Notre environnement est bâti pour favoriser la sédentarité.
D'accord.
Il faut peut-être changer ça.
Vous me rappelez deux choses que j'ai déjà faites. Justement, il y avait une marche à Sherbrooke impliquant plusieurs conseillers municipaux. J'avais montré le livre de Éloi Laurent, un économiste, « Et si la santé guidait le monde, l'espérance de vie vaut mieux que la croissance ». Puis il avait aimé ça, tu sais.
Ouais.
Puis le même conseiller, quand j'ai vu qu'il avait aimé ça, j'ai fait la suggestion qu'un conseil municipal se fasse en marchant, au moins un. C'est un conseil municipal en marchant. Mais je crois que c'est pas réaliste. Ils ont besoin d'ordinateurs, puis...
Je vais vous arrêter. Peut-être, okay. Peut-être qu'en marchant autour de la ville, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais j'ai vu des endroits où on fait des réunions en vélo.
Oh,
donc,
oui.
Ils sont assis sur des vélos. Ils ont tous leur ordinateur, puis ils peuvent faire leur réunion en vélo. Puis après ça, quand c'est fini, c'est l'autre groupe qui vient faire sa réunion. Fait que ça, je l'ai vu. Des petites réunions, 2, 3, 4 personnes, ça se fait en marchant. J'ai vu beaucoup de professeurs qui proposent ça à leurs étudiants. Et on va aller jaser, puis on va aller marcher. Fait que oui, vous avez une piste de solution.
D'accord.
Peut-être qu'un conseil municipal, avoir peut-être des pédaliers en dessous de leur bureau pendant qu'ils font la réunion du conseil municipal. Il faut être imaginatif.
Puis une indiscipline, ça pourrait être d'oublier de pédaler.
Ouais. on enlève toutes les bas de bureau, fait qu'on voit tous les pédaliers. Fait que s'ils mettent la pédale pas, on le sait.
Bon. C'est très bien. Je pense que je suis satisfait. À vous, est-ce que vous avez des messages à dire que j'aurais pas pensé à vous demander?
Bien, en fait, mon message, quand j'ai écrit ce chapitre-là, c'était de dire aux gens, premièrement, j'ai deux messages que j'ai faits. Le premier, il faut que les gens comprennent que l'inactivité physique et la sédentarité, c'est deux choses, je suis déjà content. Parce que l'inactivité des gens disent, ben moi, je suis sédentaire. Ouais, non, peut-être que oui, peut-être que non. Et les gens, je les appelle mes petites abeilles. Ils sont toujours debout, en train de faire des petites choses en maison, mais ils ne sont pas actifs physiquement dans la mesure qu'ils n'atteignent pas les recommandations. Mais ils font tout le temps un petit quelque chose. Tu sais, en train de travailler, tricoter, peu importe, ils font des petits travaux, ils sont tout le temps debout. Donc, ils ne sont pas sédentaires, mais ils sont inactifs. Fait que pour moi, c'est deux concepts distincts. Puis c'est ce que je souhaite que les gens retiennent. Puis le deuxième message, c'est que bien, si c'est deux concepts distincts, ça prend deux stratégies distinctes. On a fait la promotion de la santé et de l'activité physique. On le sait, ça. Si je demande à 100% des gens, ils vont me répondre, ben oui, l'activité physique, c'est bon pour la santé. Alors, pourquoi qu'à peine chez les adultes, 30 à 40% des adultes qui atteignent les recommandations, puis 15% des personnes âgées seulement? Pourquoi? Tout le monde dit que c'est bon. Donc, si on pense que juste d'augmenter l'activité physique va réduire la sédentarité, on n'est pas sur la bonne stratégie. Il faut continuer à faire la promotion de l'activité physique d'un mode de vie plus actif. Puis un mode de vie plus actif inclut une stratégie pour briser la sédentarité et faire en sorte qu'on est un peu plus en santé.
Bon, mais je vous remercie beaucoup. C'est clair. Et je vous souhaite bonne chance dans la rédaction de votre thèse de doctorat.
On croise les doigts.
Je nous souhaite la santé. En tout cas, tout le monde, là, s'il vous plaît, lisez le livre de la réduction de la maladie qui est dans Internet et le chapitre de M. René Maréchal qui s'intitule... j'ai pas la première page.
L'inactivité et la sédentarité.
Ouais, okay. Merci bien. Alors, vous êtes très gentil d'avoir accepté de faire cette
entrevue. Ça fait plaisir.
Je vous remercie, puis à une prochaine fois.
À une prochaine fois.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée. Rebonjour, ici Claude à nous le futur. Excusez-moi, c'était un petit peu long. On a José qui est mon dernier invité. Et puis, il me reste des choses à dire. C'est sûr que toute mon émission que j'ai préparée, je ne pourrais pas tout dire. Ça va aller un peu à la semaine prochaine. Alors, les perturbateurs endocriniens, le réseau Environnement Santé dit que nous avons besoin d'aller plus loin dans l'information des consommateurs. Imaginez-vous, ça, c'est des Français qui disent ça, tu sais, et à Sherbrooke, comparé à eux, on est comme 50 ans en arrière. Il y a des villes sans perturbateurs endocriniens en France. Et puis, j'ai déjà proposé au conseil municipal, il y a 2 ans, qu'on joigne ce réseau-là. Et puis, le maire m'avait dit, ben non. Ben, tu sais, pas en France, là. Fait que, il faut augmenter la conscience. Fait que, disons, il dit que toute la population aujourd'hui est contaminée par ces substances toxiques que sont les perturbateurs endocriniens. Une politique ambitieuse et protectrice des consommateurs aurait pu se traduire par un étiquetage sous la forme d'un pictogramme très lisible figurant sur chaque emballage, tel quel ou dans le cadre plus large d'un toxiscore. Nos associations demandent une communication plus proactive et transparente de la part des industriels afin de permettre aux consommateurs de faire des choix plus éclairés pour leur santé. Ça, c'est le réseau Environnement Santé français. Fait que là, je vais vous dire un petit mot de pétrole, disons, etc. Là. Parce que Alain Deneau, c'est un professeur de philosophie québécois qui actuellement enseigne au Nouveau-Brunswick. Il avait écrit le livre Noir Canada avec deux autres personnes. Et puis, où il critiquait les mines là, qui, à l'aide du Canada, font de l'exploitation dans d'autres pays, entre autres en Afrique. Dans ce sens-là, le Canada est complice. T'sais. Fait que c'est dur à accepter. Fait que il y a une mine qui s'est choquée, qui a intenté un procès de 11 millions de dollars contre Éco-Société, qui avait publié ce livre-là, et Alain Deneau. Et puis finalement, il y a eu un règlement hors cours. Je ne connais pas la nature du règlement. Mais le livre a été retiré, Noir Canada. Et après ça, je pense qu'il y a quelques livres qui s'appellent Offshore, par exemple, Paradis fiscaux et souveraineté criminelle, ainsi que Le totalitarisme pervers d'une multinationale au pouvoir. Ça, c'est d'Alain Deneau. Et puis, De quoi Total est-elle la somme? C'est pour ça que c'est à peu près 300 pages. C'est difficile à lire. Tu sais, c'est complexe et bon, on n'est pas formé à ça, là. Fait que ce que je voulais vous dire par rapport à ça aussi, c'est qu'Alain Deneau s'en vient faire une conférence en Estrie. J'ai pas réussi à savoir où en ce moment. Fait que je continue mes recherches. Ce que j'ai vu, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que j'ai vu le film dans le cadre du Festival des films du cinéma de Sherbrooke la semaine dernière ou les deux dernières semaines, là, le film Malartic. Je pense que c'est le troisième film à propos de Malartic. Il y avait Richard Desjardins qui a fait True Story. Et puis le même réalisateur qui a fait le Malartic de l'autre jour, il en avait fait un autre là, sur les déménagements forcés par la mine d'or. Moi, je suis né là, alors ça me parle. Fait que finalement, la grande leçon de ce film-là, c'est que il y a une ville, un gros village là, qui s'appelle Malartic, qui est très pauvre. C'est sûr que dans le village, il y a des mineurs qui gagnent au moins, disons, 125 000, tu sais. Pas de l'heure, par année. Fait que ils sont à côté d'une mine qui est super riche. Donc, ça montre la contradiction entre la richesse et la pauvreté, qui peut être la même que... J'ai vu un autre film, c'est À la rencontre des gardiens et gardiennes de la forêt en Amazonie. Moi, je trouve que en Abitibi, il y a de la déforestation et des mines, comme il y a de la déforestation et des mines polluantes en Amazonie. Donc, je pense qu'il devrait y avoir des liens de la diplomatie citoyenne à faire. Fait que ce que je veux dire, c'est que Mme Voisard, Anne-Marie Voisard, elle était interviewée dans le livre Malartic et elle a expliqué finalement c'est l'échec du droit. C'est le droit du plus fort. Puis elle a écrit un livre qui s'appelle Le droit du plus fort. Ce que je veux vous dire, c'est que d'habitude, je parle de ce que j'ai déjà lu et des choses que j'ai déjà constatées. Mais là, je suis en processus d'une démarche de lecture. Je n'ai pas fini, mais c'est ce que je vous dis. C'est que je suis à lire ça. C'est compliqué, c'est complexe. Exemple, la personne raisonnable. Je pense que c'est à cause du fait que une personne raisonnable doit se restreindre. Mais tu sais, ceux qui polluent extrêmement, là, si les personnes raisonnables se restreignent trop, ils vont continuer à polluer puis à nous envoyer en enfer. Fait qu'il faut réfléchir. Là. Le droit du plus fort, je vous suggère de lire ça, de Anne-Marie Voisard. On va-tu un concours? Qui c'est qui finit le livre le premier? Fait que là, il est 11h40. Je voudrais aussi vous parler d'un beau petit livre dont j'ai entendu parler à l'émission La Grande Librairie, TV5, 10h le dimanche. Ça s'appelle Éloge de l'ombre. C'est un Japonais qui a écrit ça. C'est Junichiro Tanizaki. Ça a été traduit par René Schaeffer. Moi, je relis ça à l'éclipse. T'sais, l'éclipse nous a amené de l'ombre, finalement, le jour. Pendant, normalement, on n'a pas de l'ombre. C'est pas de nuit, le jour, mais on a eu la nuit, le jour. Alors, c'est une réflexion qu'on devrait avoir, je pense. Et ce livre-là peut aider. Il dit que c'était publié pour la première fois en 1978 dans l'admirable traduction de René Sieffert. Ce livre culte est une réflexion sur la conception japonaise du beau. Voilà ce à quoi je voulais en venir, c'est que finalement, tu sais, moi j'ai marqué écologie, point d'interrogation. Je crois qu'on peut arriver à dire que le beau, cultiver le beau, c'est une forme d'écologie, parce que l'écologie, c'est de l'harmonie. Et la beauté, c'est de l'harmonie. Donc, j'ai trouvé un autre article, là, je parle d'un autre sujet, comme qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, mais c'est intéressant. C'est dans le Devoir du 16 avril. L'anglais est du français qui s'ignore. C'est un article de Jean-François Nadeau et c'est à propos du linguiste Bernard Cerchiglini qui a écrit le livre « La langue anglaise n'existe pas ». Je le cherche, j'ai hâte de le trouver. Je pense qu'il n'est pas encore sorti, ça ne sera pas long. Il dit que plus du tiers du vocabulaire anglais est bel et bien d'origine française. Target, cible, c'est d'un diminutif de targue, un bouclier en ancien français. Êtes-vous fatigué d'entendre vos enfants vous dire que c'est nice? Sachez que nice, en ancien français, signifiait d'abord idiot et niais, avant de prendre par la suite une valeur positive. Les exemples sont quasi infinis. Riot, émeute, vient en droite ligne de riot, signifiant querelle en ancien français. Story n'est qu'une forme de l'ancien normand estory, dont on a laissé tomber une lettre. Le mot peace, tout simplement l'ancien français P-A-I-S-P-S, et war, de l'ancien normand var, même sens. Alors, c'est vraiment, tu sais, encourageant pour nous, là, qui avons peur de l'anglicisation. C'est peut-être les Anglais qui devraient avoir peur de la francisation. À l'époque des Lumières, ce sera le vocabulaire politique anglais capable de supporter des idées révolutionnaires qui sera importé en France. Des mots comme majorité, parlement, convention, motion font leur apparition en français. Donc aussi, le français a emprunté de l'anglais. De grands écrivains anglais, montre-t-il, ont une langue nourrie de français. Alors, je vous encourage à lire ça, c'est « La langue anglaise n'existe pas ». Et puis, bon, tu sais, nous avons besoin d'une réforme, je me disais ça en m'en venant ici ce matin, là, d'une réforme en agriculture. Pour vous résumer ça, c'est Max Laplante dans Le Devoir d'aujourd'hui qui a écrit un article. Allez lire ça, très important. Nous avons besoin d'une révolution, comme disait monsieur, justement, en santé. Diminuer la maladie, oui, c'est ça, ce qui permet de diminuer la guérison de la maladie. Et nous avons besoin d'une révolution dans la paix, c'est-à-dire que nous devrons convertir l'industrie militaire et des fins civiles en passant par le traité d'interdiction des armes nucléaires. Je rappelle que le comité français pour l'interdiction des armes nucléaires suggère aux villes de soutenir ça. Et je vais bientôt aller au conseil municipal avec les artistes pour la paix pour demander que la ville de Sherbrooke signe son soutien au traité d'interdiction des armes nucléaires, accepté, je crois, par 130 pays en ce moment. Mais pas encore exécuté, voyez-vous. Il y a un passage à faire, là. Et nous avons aussi besoin d'une révolution en éducation. Alors, le livre « Debout pour l'école » le montre, et ce livre-là fait des consultations citoyennes, là. La deuxième phase, ça commence bientôt dans chaque région, ils vont en avoir une en Estrie, pour dire qu'est-ce qu'on veut en éducation. Et je me disais aussi que j'aime ça faire ce que je fais, là. Et j'ai comparé ça au Qigong ou au Tai Chi qui fait circuler de l'énergie. Alors, je me suis dit que j'aime faire circuler l'énergie de l'information pour une meilleure santé du monde, tu sais. Fait que, donc, j'ai fait un petit poème ce matin. C'est pas très fort, mais ça rime au moins. À nous le futur, mais pas en agriculture en ce moment. Vers un bien-être total sans total, je veux dire l'industrie pétrolière. Bras de fer entre les médecins et le gouvernement, qu'est-ce que c'est que ce machin? Bon, ça rimait, mais ça rime plus, pas grave. Fait que je voudrais vous dire aussi que j'ai reçu un communiqué de presse ce matin. La SCFD, je ne sais pas c'est quoi, RES, c'est le Réseau Environnement Santé français, s'engage sur la Journée européenne des hormones. Donc, c'est ça qui est important. On vous dit que il y a une dangerosité des perturbateurs endocriniens pour la santé humaine et il lance un appel pour se diriger vers une santé durable. À l'occasion de la Journée européenne des hormones, qui aura lieu le 24 avril 2024 prochain, le SFCD, en partenariat avec le RES, organise un webinaire sur l'importance et l'urgence de limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Nos spécialistes expliqueront les principaux points d'alerte pour permettre une meilleure compréhension de cet enjeu de santé publique. Il est temps que les décideurs et les pouvoirs publics s'emparent de ce sujet. Les pathologies de l'émail dans les dents là, sont de plus en plus fréquentes, telles que le MIH, qui concerne 15 à 20 % des enfants. Elles sont pour nous le signe sentinelle d'une contamination in utero par les perturbateurs endocriniens. L'utilisation de matériaux non exempt de toxicité, qui contiennent pour la plupart du bisphénol A et des phtalates, comme les produits de désinfection potentiellement dangereux pour les équipes dentaires, nous amène à aborder ce sujet de santé publique lors d'un webinaire. Ces substances nocives impactent la santé des patients, petits et grands, et surtout vulnérables, tout autant que celle des équipes dentaires, et contribuent à creuser le déficit de la sécurité sociale. Alors, c'est en lien avec ce dont on parlait ce matin avec eux, Monsieur Maréchal, le kinésiologue que je viens d'interviewer. Également, j'ai reçu de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, qui est le pendant canadien de nos médecins québécois pour l'environnement. C'est un appel. Le temps est venu, disent-ils, de demander au ministre Guilbeault de s'assurer que le Canada donne la priorité à la santé humaine et à la justice environnementale en prenant des mesures pour remédier à la pollution plastique. Un grand nombre des 16 000 substances chimiques présentes dans les plastiques sont liées à diverses formes de cancer, ainsi qu'à des perturbations endocriniennes et à des problèmes de santé reproductive. Des particules de microplastiques ont été détectées dans le sang et le placenta de 80 % des personnes testées dans le cadre d'études. Fait que le Canada doit donc, deux points, adopter un traité juste et équitable des politiques nationales qui respectent les droits de la personne, limiter la production mondiale de matières plastiques, éliminer les produits en plastique inutiles, donner la priorité à l'interdiction des substances chimiques, donner la priorité à l'adoption de mesures immédiates en faveur des personnes les plus vulnérables et veiller à ce que les entreprises respectent le droit à un environnement propre, sain et durable. Bon, on se répète, on continue. Fait que j'ai aussi vu ce matin... C'est des bonnes nouvelles, ça, là. C'est réaménager radicalement notre avenir grâce à la fiction climatique. Ça vient du réseau Yes, Journal of a Positive Future. C'est la traduction de... Attendez un petit peu. Je ne l'ai pas. Mais c'est dans cette revue-là. C'est Reimagine Radically Our Future... via Climatic Fictions. Autrement dit, l'écriture. Il y a un concours d'écriture pour imaginer un beau futur, mais c'est en 2200 pour que ce soit assez loin pour qu'on ne se pense pas obligé de respecter le présent, où on peut être libre d'imaginer un beau futur. Et puis, dans un autre ordre d'idée, le Good News Network nous dit ce matin, alors si vous vous abonnez, vous allez pouvoir le lire tout de suite, qu'on peut désormais remplacer des cornets et... redonner la vie, la vue à des millions d'aveugles. Super intéressant. Je peux pas tout vous lire ça. C'est le bioengineering qui travaille là-dessus. Et puis, Roméo Bouchard nous dit, par rapport à l'agriculture, il va dans le même sens que Maxime Laplante dans Le Devoir d'aujourd'hui. Et puis, il donne raison à PSPP, tu sais, qui dit que depuis Lord Durham, le Canada, son but, c'est d'effacer la minorité française du Canada, qui est la majorité au Québec encore. Alors, il donne raison à PSPP, tandis qu'il y a un autre article du Devoir qui ne donne pas tout à fait raison à PSPP. Mais je pense que nous devrions tous et toutes déjà se demander quel est le scénario du futur que nous allons nous préparer d'ici 2030, s'il y a un référendum. Quelle préparation allons-nous faire pour un oui ou pour un non? Alors, je vous reviens. Bon, bien, merci à Mirabelle pour Acid Rain. Et pour qu'il y ait moins de pluies acides, je vous encourage à lire La crise agricole est d'abord le fruit d'une dérive de Maxime Laplante dans Le Devoir d'aujourd'hui. Alors, mon nom est Claude Saint-Jean. Je suis content d'avoir été avec vous. Je remercie M. René Maréchal, le kinésiologue, qui nous a parlé de santé via de l'éclaircissement sur les notions de sédentarité, d'activité physique et d'inactivité physique. Je remercie encore M. Maréchal. Et puis, je vous souhaite à vous tous et toutes une excellente santé, un mental de fer positif. Et puis, des bonnes relations sociales, des bonnes relations émotionnelles. Cette semaine, je me souhaite ça à vous aussi. En disant ça, c'est parce que je pense à Mme Kermadec, dont j'ai lu un livre récemment. C'est une psychanalyste qui terminait son livre en disant que la pandémie, via la distanciation sociale, a causé beaucoup de maladies mentales que nous devrions surmonter en donnant plus d'importance à l'intelligence relationnelle et à l'intelligence émotionnelle. Ça va faire partie d'un autre sujet, une autre semaine, là, la neuropédagogie, qui inclut une nouvelle sorte d'intelligence et la gestion de la pensée, etc. Merci, au revoir, portez-vous bien, sinon lâchez-vous, comme disait mon papa.